France Culture.
La science, c'est QFD. Antoine Beauchamp.
Qui dit nouvelle année et premier lundi du mois dit tour d'horizon de l'actualité scientifique. Que trouve-t-on dans les pages de nos médias scientifiques préférés ? Il y a 15 ans, on découvrait dans la grotte de Denisova une phalange d'une espèce humaine éteinte. Qu'a-t-on appris depuis sur ces populations denisoviennes grâce à la paléogénétique ? Pourquoi des molécules au cœur du stress oxydant sont-elles responsables de régénération chez certaines espèces animales ? C'est à cette énigme que s'attellent plusieurs équipes de chercheurs. Et enfin, côté numérique, une nouvelle ère s'ouvre dans notre rapport à l'image et au son conditionné par les deepfakes. S'il ne suffit plus de voir pour croire, comment se protéger du faux à tous les étages ? Denisova, de l'eau oxygénée dans nos cellules et des deepfakes à toutes les sauces, c'est notre menu au clair de la une pour cette année 2025. Bonne année Mathilde Fontaise.
Bonne année.
Vous êtes rédactrice en chef du magazine Epsilon. Bonjour Pierre Kerner.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences en génétique évolutive du développement et enseignant-chercheur à l'Université Paris-Cité et à l'Institut Jacques Monod. Vous animez le blog Strange Stuff and Funky Things et Magie du Direct. L'article dont vous allez nous parler sur l'eau oxygénée dans les cellules vient tout juste d'être publié sur votre blog. Bonjour Olivier Lascar.
Bonjour Antoine, bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes rédacteur en chef du pôle digital de notre magazine partenaire Science et Avenir et vous êtes l'auteur de Deepfake. L'IA au service du faux, paru aux éditions Erol. Donc, on spoil, vous allez nous parler tout à l'heure des deepfakes. Et enfin, bonjour Catherine Dufour.
Bonjour et bonne année.
Bonne année, vous êtes informaticienne, autrice de science-fiction. Votre dernier roman intitulé Les champs de la Lune est paru en septembre 2024 aux éditions Robert Laffont. Et tout à l'heure, on embarquera justement avec vous dans la capsule SF pour un voyage vers la Lune et Mars. Bienvenue donc à tous les quatre, bienvenue à vous qui nous écoutez. Je vous souhaite une excellente année 2025, pleine de joie, de découvertes, de curiosités. Vous pouvez, comme chaque jour, retrouver tous les liens pour prolonger dans le détail cette émission sur notre site de la science CQFD, franceculture.fr, mais aussi et surtout sur notre compte Blue Sky, @sciencecqfd. Voilà, tout ça c'est dit, on commence notre tour d'horizon gourmand avec vous, Mathilde Fontaise, et on va faire un petit voyage dans le temps. On va aller dans une grotte perdue dans l'Altaï, en Sibérie méridionale, la grotte de Denisova, où il y a pas loin de 15 ans, on découvrait un tout petit bout d'os. Racontez-nous cette découverte qui, d'un point de vue paléanthropologique, on a connu plus spectaculaire, le crâne de l'homme de Totavel, par exemple. Là, c'était un tout petit bout d'os, mais ça a changé pas mal de choses.
Mais c'était une phalange, c'était le 22 décembre 2010, et c'était juste un tout petit bout de phalange, mais qui a été analysé et qui a très vite donné, dont l'analyse a très vite donné un nouveau code génétique, un autre code que celui de Homo sapiens, un autre code aussi que celui de l'homme de Néandertal, qu'on connaît tous bien maintenant, hein, qu'on connaît depuis 150 ans et qui a été vraiment, vraiment bien décrit. Et cette nouvelle humanité qu'on a tout de suite perçue, hein, et dès le départ ça a été une découverte assez fracassante. Cette nouvelle humanité a été appelée l'homme de Denisova, comme la grotte dans laquelle il a été découvert.
Ce qui est intéressant dans cette découverte, Mathilde Fontaise, c'est que c'est un peu une nouvelle façon de découvrir une nouvelle espèce humaine. Là, on n'a plus des archéologues, bon, des paléoanthropologues. On va éviter le cliché de la personne à quatre pattes en train de, avec la truelle et le pinceau en train de sortir un magnifique crâne. Là, c'est des généticiens.
Oui, c'est des généticiens, puisqu'il y avait très très peu de matériel. Et encore aujourd'hui, il y en a très peu, hein. Si on fait maintenant l'état des lieux un peu de tout ce qu'on connaît de cette autre humanité, on n'a qu'une dizaine d'ossements qui sont répartis. On en reparlera dans une grande aire géographique. Et dans cette grotte de Denisova, on a trouvé seulement deux molaires, une dent de lait, cette phalange dont on parle, mais jamais de squelette complet, jamais de crâne, et jamais rien qui permette de décrire, on va dire, des types physiques ou de décrire une autre humanité.
Et ça nous embête, parce qu'on aimerait bien avoir un portrait
physique. Ça a un
peu
choqué, au moment de la découverte de l'homme de Denisova, là, donc en 2010, ça a un peu choqué qu'on puisse comme ça annoncer une nouvelle espèce, ou en tout cas une nouvelle population humaine, puisque maintenant on a du mal à parler d'espèce, vu les échanges qu'il y a eu entre Néandertal et Sapiens d'une part, et Denisova et Sapiens d'autre part. Mais tout de même, ça a un peu choqué, mais ça a été comme ça que cette découverte a été faite. Et depuis, ces méthodes n'ont fait que porter leurs fruits de nouveau, puisque à partir de tous ces petits ossements, et c'est ce qu'on raconte dans Epsilon ce mois-ci, les paléoanthropologues, les généticiens essayent de dresser une sorte de premier portrait un peu fantomatique. Hein. On n'est pas, d'ailleurs, on a mis une image floutée dans Epsilon.
Elle est belle, la photo, l'image est très belle.
Parce qu'on a, il y a eu des reconstitutions qui ont été tentées, un peu comme celles beaucoup plus exactes, beaucoup plus documentées, qui ont pu nous donner un peu à voir à quoi pouvait ressembler Néandertal. Pour Denisova, il y a eu ce type de début de représentation. Mais on a tellement peu d'informations encore qu'on a quelques petites...
Alors, si on doit faire ce portrait en puzzle, façon puzzle de Denisova, on a quels éléments physiques, quelles caractéristiques physiques on pourrait lui attribuer?
Alors, on a des très grosses molaires.
Ok.
C'est pas vrai. On a des molaires énormes qui ont trois racines, qui sont communes, du coup, ces trois racines à certaines populations asiatiques de l'Est actuelle, mais des molaires très très particulières. On a une mâchoire archaïque, donc comme celle de Néandertal, c'est-à-dire avec un menton fuyant. Ça, c'est grâce aux mandibules qu'on a pu retrouver, notamment une qui a été retrouvée dans un filet de pêche à Taïwan. Voilà. Et puis, on a l'étude des gènes, et c'est ce qui, quelque part, donne le plus d'informations, notamment donc l'étude des gènes qu'on a pu retrouver dans cette phalange, et puis aussi l'étude des gènes de nos contemporains et des populations actuelles. Et en croisant les deux, les généticiens ont pu comme ça retrouver des gènes dans les populations actuelles, en particulier donc en Asie du Sud-Est et même pratiquement jusqu'à l'Océanie. Ils ont pu retrouver des gènes qui venaient de Denisova et donc qui, à partir de ces gènes, réussir à comprendre certains traits, on va dire, que Denisova avait pu développer et qui nous ont été transmis depuis.
C'est ça qui est très intéressant. Vous parliez tout à l'heure de l'aire de répartition géographique de Denisova. Cette aire, grâce à ces quelques ossements et grâce à ces analyses génétiques dont vous parlez à l'instant, elle est a priori assez gigantesque. Et même Denisova, a priori, serait cette localité en Sibérie méridionale, serait plutôt un espace fréquenté de façon marginale par les humains de Denisova.
C'est ce qu'on découvre aujourd'hui, oui, c'est assez sidérant, c'est qu'on a commencé par découvrir l'homme de Denisova à la limite de son territoire, à la limite ouest, et quelque part à l'endroit où finalement se terminait la population des Denisoviens et commençait celle de l'homme de Néandertal, puisque les deux espèces étaient contemporaines. Hein, donc on se replace un peu quand même dans l'histoire des choses. Donc nous sommes à moins 500 000 par rapport à nous, on a une séparation d'Homo sapiens avec la population de Néandertal et sans doute la population de Denisova. Ensuite, vers 400 000, alors les évaluations varient et on a fait une moyenne dans Epsilon sous contrôle des chercheurs avec lesquels on a travaillé. Et bien évidemment, ce sont des évaluations, mais c'est pour se brosser un peu l'histoire. Il y a 400 000 ans, il y a une séparation de Néandertal et de Denisova. Tout ce petit monde-là sort de l'Afrique et arrive en Europe et en Asie. Et on trouve aujourd'hui beaucoup de traces de Néandertal plutôt en Europe, même si on en trouve en Asie, et on trouve beaucoup de traces, enfin ces faibles traces en tout cas de Denisova en Asie. Et donc la grotte, ce serait le côté ouest, et en fait l'homme de Denisova aurait plutôt vécu en Asie du Sud-Ouest. Ce qui est épatant, c'est qu'il aurait vécu du coup dans des territoires très... très rude de l'Himalaya, au Tibet par exemple, en montagne. Il aurait vécu également dans la jungle luxuriante, et il aurait vécu même jusque sur les îles. Alors peut-être à la faveur de certaines baisses du niveau des mers, aurait-il pu franchir, ou peut-être à la nage, on ne sait pas.
Là, on parle du Tibet, on parle d'Asie du Sud-Est, on parle de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Donc là, on parle vraiment d'environnements excessivement différents auxquels aurait pu s'adapter ce Denisova.
Et d'ailleurs, sans doute, y a-t-il des types génétiques pour l'homme de Denisova qui sont, enfin en tout cas, des traits qui sont assez différents, des populations assez différentes. Rien qu'avec les bribes d'informations que les chercheurs ont aujourd'hui, ils ont déterminé déjà quatre types de populations de Denisoviens qui sont assez différents et chacun avec leurs spécificités. Donc depuis, on va dire, les deux extrêmes que peuvent être celui qui habite dans la jungle luxuriante ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée et celui qui habite en Sibérie ou au Tibet.
Alors vous parlez de ces spécificités, quelles sont-elles? Comment Denisova s'est-il adapté? Caractéristiques qu'il a développées en fonction de ses environnements
et
différents.
Et caractéristiques qu'il nous a léguées. Il nous a léguées, puisque c'est ça qui est fou, hein, c'est que les Tibétains et les Sherpas bénéficient des gènes de Denisova pour résister à l'altitude, pour résister au froid. Donc avec tout un métabolisme des graisses qui a été... Donc à partir d'un gène, en fait, les généticiens ont pu comprendre que ce gène codait un métabolisme des graisses qui, après, derrière, pouvait permettre cette résistance au froid particulière. Et pareil pour le... Donc, pareil, bon, pour les maladies tropicales, on a trouvé des gènes qui montrent le développement par l'homme de Denisova d'une résistance à certaines maladies pour lesquelles Homo sapiens à l'époque n'était pas immunisé. Et sans doute y a-t-il eu un mélange, puisque Homo sapiens et Denisova, tout comme Homo sapiens et Néandertal, se sont rencontrés et ont fait des bébés ensemble. Et sans doute que c'est un peu la même histoire et que, quelque part, de la même manière que Néandertal a aidé Sapiens à s'adapter au climat européen lors de la sortie d'Afrique, sans doute que Denisova a transmis aussi, puisqu'il avait eu beaucoup plus de temps pour s'adapter avant, par rapport à Homo Sapiens, sans doute que Denisova a transmis certaines défenses, certaines adaptations.
Ce qui est très intéressant, Mathilde Fontaise aussi, dans cet article d'Epsilon, c'est qu'on, d'un point de vue statistique et proportion du génome hérité de Denisova, c'est plus important chez certaines populations aux Philippines, en Mélanésie, en Australie, que l'héritage de Néandertal.
C'est jusqu'à 4%. C'est ça, jusqu'à 4%, alors que donc pour Néandertal, c'est 1 à 2%.
Maximum.
Et puis dans le Denisova, donc on voit aussi une marque. Donc dans ces populations-là, c'est 4%, et après, ça descend en dessous de 0,5% assez vite. Donc c'est des populations qui sont locales, mais effectivement, aux endroits où ça a atteint ces 4%, ça veut dire qu'il y a eu une forte influence adaptative de ces échanges, de ces hybridations avec Denisova, et peut-être que sans Denisova, Homo sapiens n'aurait pas pu s'adapter aussi vite à ces nouveaux environnements.
Alors on cherche encore et toujours de nouveaux fossiles, de nouveaux ossements de Denisova, mais on parle beaucoup depuis le début de climat, et ça c'est un paramètre hyper important quand on veut étudier ces fossiles-là, surtout d'un point de vue génétique, c'est qu'il faut que ça ait conservé un petit peu d'ADN. Or, l'Asie du Sud-Est, les zones chaudes, humides, c'est pas très très bon pour la conservation de l'ADN, et donc pas très bon pour les paléogénéticiens qui veulent comprendre.
Il y a un ordre de grandeur qui nous a été donné et qu'on a cité dans l'article, c'est 10 000 ans, c'est le plus vieil ADN qu'on ait pu retrouver dans une jungle, en gros dans un climat humide, quoi, dans un climat chaud et humide. Donc dans ces climats-là, l'ADN se dégrade, les vestiges se dégradent beaucoup plus vite, et par ailleurs, il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi une dynamique de, comment dire, une tradition des fouilles. Les fouilles ont beaucoup plus lieu en Europe qu'en Asie. Et donc, il y a tout ce territoire-là, parce que ce que les chercheurs disent, c'est qu'en fait, il y a quand même des refuges pour ces vestiges dans lesquels on peut chercher et peut-être trouver d'autres exemples de l'homme de Denisova, le Graal étant de trouver un squelette entier, pour pouvoir vraiment décrire toute sa morphologie. Donc, par exemple, dans les grottes qui sont préservées de la chaleur, par exemple, en hauteur dans les montagnes, c'est d'ailleurs là qu'on a trouvé les quelques vestiges qui ont pour l'instant été découverts. Mais c'est vrai que il y a tout un travail à faire de fouilles qui n'a pas encore été fait. Et il y a un autre travail qui est en cours et qui est assez excitant aussi, c'est celui de réanalyser des vestiges, des ossements qui ont pu être stockés et quelque part mal étiquetés, ou en tout cas qui n'ont pas été analysés avec des techniques qui ont permis de comme ça découvrir l'homme de Denisova, et qui peuvent être dans... Notamment, on parle beaucoup d'ossements qui sont stockés dans les musées et dans les laboratoires chinois.
En Chine, ouais.
Avec des interprétations différentes, par exemple ce crâne qui a été appelé l'homme dragon, et dont certains des paléo-anthropologues que nous avons interrogés nous disent que pour eux c'est un Denisova. C'est un crâne très impressionnant qui avait été trouvé à la faveur de la construction d'un pont, puis planqué dans un puits. Enfin, c'est une histoire.
Est-ce que le crâne a bien été conservé aussi?
Voilà. Donc il y a toute cette réanalyse à faire, et d'ailleurs c'est un peu comme ça en analysant à la volée. Notamment tous les vestiges, les ossements qui avaient été retrouvés dans cette grotte de Denisova, 4000 ossements qui n'avaient pas été étiquetés, en utilisant des spectromètres de masse et des méthodes d'analyse modernes. Et c'est un petit peu comme ça qu'on a aussi réussi à faire parler cette grotte de Denisova et à tirer d'autres choses de ces ossements.
On a trouvé deux ou trois autres individus, c'est ça, grâce à
ça. On a trouvé trois individus grâce à cette analyse un peu barbare de 4000 ossements qui n'avaient pas été étiquetés. Donc il y a tout ce travail qui est en cours avec une... L'article se termine, les chercheurs exhortent les jeunes chercheurs à aller fouiller dans la jungle, quoi. C'est vraiment, ils disent, c'est un nouveau territoire de recherche. Moi, si j'étais jeune chercheur, je ferais ça. J'irais fouiller dans la jungle pour trouver d'autres vestiges de Denisova, et pourquoi pas un squelette, et pour pouvoir le décrire vraiment.
Foncer dans cette jungle à la recherche de Denisova. Alors, quel portrait on peut dessiner quand même malgré tout de ce fantôme qu'est Denisova? Qu'est-ce qu'on peut dire de son régime alimentaire, de sa vie, de son quotidien? Parce qu'on aime bien ça quand on parle d'archéologie, de paléoanthropologie.
On aime bien ça, c'est irrésistible. Et il y a deux équipes qui s'y sont essayées, alors, dont les... dont les résultats sont un peu discutés par la communauté parce qu'ils sont très spéculatifs. Une première étude qui a essayé de dresser une équipe chinoise qui a essayé de dresser un portrait, et puis une étude de chercheurs israéliens qui s'est basée sur la méthylation de leur ADN pour essayer de comme ça comprendre leur morphologie générale. Donc il faut prendre tout ça avec des pincettes, mais ils décrivent des yeux écartés, ils décrivent un nez épaté, ils décrivent une bouche étroite, ils décrivent un bassin large. Ils commencent à dresser comme ça le portrait d'un autre type d'homo qui n'est pas tout à fait néandertal, qui ressemble plus à néandertal que à sapiens, mais qui a vraiment c'est très particulier. Quant aux outils, on a retrouvé quelques outils en os dans l'une des grottes tibétaines qui abrite certains des vestiges. Donc il semble que il y ait un travail des outils. On a retrouvé des restes de repas dans la grotte tibétaine, avec il semble qu'ils mangeaient
du rhinocéros laineux,
beaucoup de chèvres, mais aussi des marmottes. Enfin, il avait faim. On a idée que son territoire pouvait s'étendre jusqu'à l'Océanie, et on se pose, comme pour Néandertal, un tas de questions sur sa disparition, puisque comme pour Néandertal, peu de temps après, en fait, il y a une cohabitation avec Homo sapiens assez brève, de quelques milliers d'années. Pour Néandertal, on sait désormais, les datations disent que c'est à peu près 7000 ans. Donc c'est quand même une cohabitation qui a permis beaucoup d'hybridation. Peut-être que pour Denisova, c'est à peu près la même chose, mais assez rapidement après, l'espèce de Denisova, de l'homme de Denisova s'éteint. Et là, on peut pas encore dire pourquoi, mis à part une concurrence éventuelle.
Work in progress, du coup, autour de ce portrait de Denisova. Vous pouvez retrouver donc toutes ces passionnantes avancées dans l'article de Vincent Nouériga dans Epsilon. Catherine Dufour, vous êtes Denisova de cœur, plutôt. Il y a des caractéristiques dans ce que vous avez entendu qui vous parlent. Est-ce que vous vous sentez un peu Denisova?
Je me sens très Denisova, mais en fait, il suffit de retrouver un os pour retrouver de l'ADN, ou pas du tout?
Non, pas du tout. Je crois que c'est pas systématique. Hein. Ouais. C'est ce qu'on disait, c'est que c'est compliqué d'obtenir de l'ADN en fonction des conditions de conservation de ces ossements-là.
La plupart du temps, il n'y a pas d'ADN qui ait été conservé. C'est l'intégral, par exemple, de retrouver de l'ADN de certaines espèces disparues qu'on pourrait du coup faire revivre si on récupérait de l'ADN, par exemple, de dinosaures.
Merci beaucoup Mathilde Fontaise. On passe tout de suite à la suite. Un autre deuxième sujet, on va prendre un bon bol, non pas d'oxygène, mais un bon bol d'eau oxygénée. Donc ça va un peu piquer.
France Culture, la science CQFD, Antoine Beauchamp.
Et c'est vous, Pierre Kerner, qui nous venez aujourd'hui teint en blond platine pour nous parler d'eau oxygénée dans les cellules. Dit comme ça, on a l'impression que ça va faire des bulles. Mais en fait, pas tant que ça. Alors, on va faire un peu de biologie, de biochimie pour comprendre ce qu'est cet oxygéné. On parle d'oxygéné, mais en fait, on parle de peroxyde d'hydrogène quand on veut faire chic.
C'est ça.
H2O2. Alors, qu'est-ce que c'est que ce peroxyde d'hydrogène?
C'est un composé qui a des propriétés à la fois oxydantes et réductrices, ce qui lui vaut d'être classé en fait comme biocide, corrosif et toxique. Et pourtant, quand on achète du peroxyde d'hydrogène, c'est en vente libre, sous forme de solution aqueuse, c'est l'eau oxygénée, on vient d'en parler. Et si vous l'avez employé comme antiseptique, c'est justement pour ses propriétés hautement nocives que vous l'avez exploité pour dégommer toutes sortes de microbes qui pourraient infecter vos petites plaies. Mais alors, ce qui pourrait être surprenant, c'est d'apprendre, et c'est le cas, que toutes nos cellules, en ce moment, produisent de l'eau oxygénée. Vous êtes en train de respirer, à travers cette respiration cellulaire, eh bien, il y a de l'eau oxygénée qui s'accumule dans les cellules. Et le peroxyde d'hydrogène, en plus, il n'est pas tout seul.
Il y a toute une famille, oui, c'est ça.
Il y a un groupe de molécules oxygénées générées par la respiration cellulaire et qui, parce qu'elles présentent des électrons libres, elles sont très très fortement réactives chimiquement. On les regroupe sous une bannière, c'est celle d'un acronyme en anglais ROS pour ROS, Reactive Oxygen Species, et en français ça donnerait dérivé réactif de l'oxygène ou espèce réactive de l'oxygène. Et sous cette bannière, vous avez des molécules molécule au nom inquiétant. Il y a le superoxyde, il y a encore une plus réactive qui s'appelle voilà le radical hydroxyle.
On dirait des noms de groupes de punk hardcore français. Et ça va bien que avec l'eau oxygénée et tout ça.
Bon, je ne sais pas, il faudrait faire une recherche après si peroxyde d'hydrogène, ça devient un bon nom de rock, mais je ne suis pas sûr quand même. Mais ROS, pourquoi pas. Et en fait, les ROS au sein de nos cellules, elles sont susceptibles de dynamiter un bon nombre de molécules, de structures moléculaires, notamment celles qui sont essentielles à la vie, le gras, les lipides, les protéines et même l'ADN. Ça, c'est une très mauvaise nouvelle parce que, par exemple, les ROS peuvent changer une des lettres de l'ADN, la guanine, en 8-oxoguanine pour être précis, et ça génère des mutations. C'est une mauvaise nouvelle. Conséquence, en gros, on peut avoir tout un panel terrifiant de pathologies, exactement.
Quelle pathologie, par exemple?
Alors, il y a le diabète, il y a les maladies cardiovasculaires, les maladies neurodégénératives, et peut-être la pire de toutes, il y a les cancers. Mm-hmm. Et sans parler de pathologie, il y a aussi tout simplement le fait que la présence de ces ROS, ces ROS, dans nos cellules, eh bien, ça contribue au vieillissement et à la sénescence. Voilà, donc je suis en train de vous dire que lorsque vous faites de la respiration cellulaire, vous accumulez de l'eau oxygénée et ça vous fait vieillir et peut-être accumuler des pathologies.
Mais Pierre, il y a quand même une lumière dans ce tunnel terrifiant des ROS que vous nous présentez.
Alors moi, quand je lisais cette description, j'étais stressé.
Un petit peu, ouais, moi aussi. Là, je commence à monter. On est en 2025, mon hypochondrie ne s'améliore pas. Là.
Et c'est peut-être ça qui a inspiré le chercheur Helmut Sies. En tout cas, c'est un mot qu'il a utilisé pour parler de stress oxydant ou stress oxydatif, mais c'est un anglicisme. Il l'utilisait en 1985 pour décrire un déséquilibre entre la production de ROS et la capacité cellulaire antioxydante. Voilà. En réalité, faut se calmer, faut se détendre. Vos cellules savent naturellement lutter contre les effets destructeurs des ROS. Elles utilisent des enzymes ou des protéines qui sont capables de transformer les molécules ROS en molécules inoffensives. Vous avez par exemple une enzyme qui s'appelle la catalase, qui peut convertir le peroxyde d'hydrogène en deux molécules distinctes bien moins troublantes, hein, on va dire, l'eau et le dioxygène, c'est un peu moins grave. Et vos cellules peuvent aussi puiser des molécules antioxydantes directement de l'alimentation, il y a les bêta-carotènes, les vitamines ou les tanins. Mais avant de vous ruer, vous achetez maintenant des suppléments alimentaires et commencez 2025 avec un régime détox, faut se demander si, en fait, est-ce que les ROS, c'est tout mauvais?
Et non. Et c'est ça qui est beau dans cette histoire, Pierre Kerner, c'est que le stress oxydant, finalement, sa définition a pas mal évolué depuis les années 80, et qu'on en a fait quelque chose d'a priori assez connoté négativement. Ouais. On a rééquilibré un peu la balance et on s'est rendu compte que le stress, c'était aussi la vie, quoi.
Oui, en fait, le stress, c'est un signal et c'est surtout quelque chose qui peut être bénéfique. Je vais vous donner quelques petits exemples. En fait, il y a des nombreuses actions bénéfiques des ROS, notamment pour nos défenses immunitaires. En fait, si vous apprenez maintenant que vous avez des globules blancs qui sont capables de produire de l'eau oxygénée, c'est une bonne nouvelle, c'est une excellente nouvelle, puisque s'ils prennent un microbe et qu'ils l'englobent par phagocytose à l'intérieur de leur cytoplasme, ces globules blancs, ils peuvent désinguer les microbes pathogènes en leur balançant de l'eau oxygénée dessus, un cocktail Molotov de ROS. Et d'ailleurs, tout ce processus-là s'appelle l'explosion oxydative et c'est une très très bonne nouvelle. D'ailleurs, au-delà de ça, la communauté scientifique s'est rendu compte que les ROS, ça sert en fait de molécule signal. Ça peut signaler qu'il y a une inflammation, c'est une pathologie, mais c'est une communication aussi entre cellules qui est cruciale pour le développement embryonnaire et la régénération.
Ah, et alors là, c'est là qu'on touche au nœud et à l'actualité la plus vive en matière de cette eau oxygénée dans nos cellules, c'est cette faculté de régénération qu'ont certaines espèces vivantes, pas toutes.
Mais pas toutes. Alors, on se concentre ici chez la régénération des animaux. C'est un sujet qui fascine la chercheuse Aurore Vullien. Elle a d'ailleurs consacré sa thèse à ce sujet et récemment publié un article dans la revue à comité de lecture Molecular Biology and Evolution avec d'autres membres de ces deux équipes d'accueil du CNRS, celle d'Eve Gazave à l'Institut Jacques Monod d'Université Paris-Cité et celle d'Eric Röttinger de l'IRCAN à l'Université Côte d'Azur. Et en fait, pour explorer le lien entre les ROS et la capacité de certains animaux à régénérer des parties du corps après amputation.
Quelle partie du corps, par exemple, et quelles espèces on va cibler là?
Il y a énormément d'espèces qui peuvent régénérer. Il y a beaucoup de vers, notamment dans lesquels on peut couper une partie du corps et on va avoir une régénération de la tête, une régénération de la queue, une régénération du corps entier à partir de fragments. C'est très très divers, la régénération. Et en fait, elle, Aurore Vullien, aurait pu se lancer directement dans des dissections frénétiques. Mais avant cela, en fait, ce qu'elle a fait, c'est utiliser une approche plus subtile. C'est disséquer leur génome, un peu comme ce qui a été fait avec Denisova. Et donc, grâce à des études dites de phylogénomique, elle a pu dévoiler les mécanismes complexes qui régulent la teneur cellulaire en ROS, autrement dit ce qu'on appelle le métabolisme des ROS. C'est des analyses qui, par exemple, ont permis de comprendre que les organismes vivants gèrent les ROS depuis 3,8 milliards d'années. Donc ça remonte en fait à l'émergence des premiers organismes dits photosynthétiques. Et dès qu'il y a eu photosynthèse, et ben il y a eu production d'oxygène et notamment de gènes permettant de se défendre contre ces agressions.
Alors je vous arrête Pierre, mais donc du coup quand certaines facultés s'inscrivent comme ça dans le génome, on se dit il y a un avantage évolutif à ce que ces ROS restent. Or vous parliez tout à l'heure de cet aspect ambivalent des ROS, à la fois destructeur, à la fois plutôt bénéfique. Alors est-ce qu'on arrive à faire le tri, ou est-ce que des chercheuses comme Aurore Vullien arrivent à faire le tri dans ce filet un peu compliqué?
Eh ben, pour cela, il faut comprendre véritablement que le métabolisme des ROS, c'est quelque chose qui permet de gérer les ROS, et c'est un panel assez inconcevable de très 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 nombreux gènes. Et pour pouvoir comprendre ce métabolisme des ROS, sous la supervision d'Eve Gazave et du regretté Michel Vervoort, Aurore Vullien a mené une ambitieuse étude phylogénétique en regardant, en passant au peigne fin, 89 génomes de différentes espèces animales. Et en fait, en comprenant quels sont les gènes qui contribuent justement au métabolisme des ROS, eh ben elle permet de faire des conclusions troublantes évolutives. Et notamment, il y a en fait derrière ce métabolisme quatre grandes actions. Il y a la production des ROS, la conversion, la détoxification et la régulation des ROS. Et en fait, la composition des gènes varie beaucoup d'une espèce à l'autre, alors que toutes les espèces sont capables de ces quatre modules. C'est peu comme si en fait la nature ne s'intéresse pas tant aux outils qui étaient employés, mais juste à la fonction. Un peu, en gros, si une espèce utilise un tournevis pour planter un clou, l'évolution, elle semble pas avoir grand-chose à dire.
Je suis pas le plus grand des bricolos, mais je crois que ça marche pas super de planter un clou avec un... Mais ça peut marcher.
Pour l'évolution, c'est du bricolage et ça fonctionne très bien. Alors pour aller plus loin, il y a quand même eu besoin de disséquer de vrais animaux, et Aurore Vullien, elle a mené des études sur l'implication des ROS dans les capacités de régénération de deux espèces animales. C'est deux espèces animales très différentes. Il y en a un, c'est... toutes les deux sont championnes de la régénération. Il y en a un qui s'appelle Platineris dumerellis, un petit ver marin, une jolie petite tête, des petites pattes, etc. Et de l'autre côté, vous avez l'anémone d'eau saumâtre, Nematostella vectensis. Bon, c'est un peu comme une anémone de mer, que vous connaissez bien, avec cette couronne de tentacules. On ne sait pas s'il y a un côté gauche, un côté droit. En gros, on part sur des bestioles assez éloignées d'un point de vue évolutif. Or, si vous faites une amputation, ces organismes généralement régénèrent. Mais si par contre vous faites une amputation et vous empêchez la production de ROS, là, même résultat, chez ces deux espèces, la régénération est compromise.
Cette régénération, Pierre, elle est compromise. Mais ce qui est trop intéressant dans ce travail de recherche que vous avez fait autour de ces ROS, c'est que quand on se penche sur le détail des effets qui sont à l'œuvre et des mécanismes à l'œuvre dans cette régénération, l'inhibition de ces ROS, elle va pas jouer aux mêmes endroits dans l'anémone ou dans ce ver.
Et oui, parce que si on a ce résultat, on pourrait se dire ah bah très bien, on a compris le rôle ancestral que pouvaient avoir les ROS dans la régénération. Et c'est pas du tout le cas. En fait, lorsque vous avez justement une régénération optimale, on observe en fait deux phénomènes d'initiation de la régénération, c'est des cellules qui meurent et d'autres qui vont se multiplier. Or, lorsque vous faites une inhibition des ROS chez le ver marin, ça va perturber principalement la prolifération, la multiplication des cellules, alors que à l'inverse chez l'anémone, c'est plutôt la mort cellulaire induite qui est affectée, l'apoptose cellulaire qui est affectée. En gros, en d'autres termes, les ROS sont indispensables à la régénération chez ces deux espèces, mais leur rôle s'exprime à travers des mécanismes fondamentalement différents. C'est un casse-tête évolutif qui se rajoute au domaine de la recherche sur la régénération, où en plus, le monde n'est pas tout rose.
Le monde n'est pas tout rose, bravo, bravo Pierre, bravo pour ce jeu de mots 2020, très 2025 et je le valide. Autour de la table, vous avez envie de vous régénérer un petit peu, Mathilde ?
On se demande forcément après derrière ce que les questions qu'on peut se poser, c'est des questions aussi médicales. J'imagine qu'il y a des travaux qui peuvent être éventuellement éclairés par ce type de recherche fondamentale pour essayer de régénérer des tissus. Est-ce que ces travaux-là peuvent faire avancer un peu où on est vraiment en fond d'art encore.
Tout à fait. En fait, ça permet de faire déjà un état des lieux de quels sont les gènes impliqués dans la gestion de cette molécule signal. Or, pour de nombreuses espèces vertébrées, notamment des salamandres, des poissons, la régénération existe pour des membres entiers et elle implique le système immunitaire. Alors, je vous ai dit qu'il y avait ce lien peut-être un peu intéressant entre le système immunitaire et ces productions d'eau oxygénée, si vous voulez. Et ça, c'est particulièrement une grande piste en fait de recherche thérapeutique déjà, mais aussi sur la régénération comme un processus propre.
Olivier Lascar.
Oh ben je pensais aussi à la queue du lézard, effectivement. Hein. Pierre a cité la salamandre. Mmh. Alors rêve au moment où ces recherches fondamentales permettront d'essaimer la médecine opérationnelle, hein, mais j'imagine qu'on en est vraiment très 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 loin.
Bah en fait, ce stress oxydant et cette compréhension finalement qu'on est dans une sorte de balance, c'est aussi la même chose qui commence à être suggérée par la balance entre notre capacité probablement à très très bien cicatriser et nos faibles capacités de régénération.
Et ça m'évoque une expérience qui avait été faite dans l'ISS, la Station Spatiale Internationale, avec des vers nématodes. Qui, lorsqu'on les coupe en deux, chaque extrémité repousse. Et en raison de la faible gravité, enfin de la microgravité qui règne à l'intérieur de la Station Spatiale Internationale, à 400 km d'altitude, ils s'étaient régénérés de travers. C'est-à-dire qu'ils avaient poussé avec deux têtes ou alors avec deux queues.
Ça, c'est plutôt les vers planaires. Les vers, justement, c'est un autre sujet, c'est qu'il y a pas mal d'espèces qui ne régénèrent pas du tout bien. Donc, c'est les vers nématodes. Eux, vous les coupez en deux, vous avez tué le ver. Donc, c'est une mauvaise nouvelle. Mais les vers planaires, on les appelle aussi des vers plats. Oui, ils sont capables, justement, de régénérer. Et notamment, la queue régénère la tête régénère la queue. Et quand on le fait dans des conditions particulières, notamment peut-être celles de microgravité, on a des doubles têtes, des doubles queues, et ça permet justement...
C'est pas le tout d'avoir l'aptitude de se régénérer, il faut se régénérer comme il faut, quoi.
Catherine Dufour, vous avez pris pas mal de notes pendant l'intervention de Pierre.
Oui, non, j'imagine mes globules blancs jetant sur mes microbes du décolorant à mèche, et effectivement, ça me fait rêver.
Merci beaucoup, en tout cas, à vous, Pierre Kerner. On retrouve ce très beau travail et ce très bel article sur votre blog Strange Stuff and Funky Things. Restez avec nous, on poursuit dans quelques instants notre tour d'horizon de l'actualité scientifique. Ce sera juste après ça. On garde un peu d'oxygène avec Jean-Michel Jarre, c'est le titre de ce morceau, Oxygène dans la science CQFD sur France Culture. On poursuit notre tour d'horizon de l'actualité scientifique avec vous, Olivier Lascar, rédacteur en chef du pôle digital du magazine Science et Avenir, notre partenaire. Olivier, il y aurait comme un tournant capital qui s'opérerait aujourd'hui dans notre rapport aux images. Et ce tournant, il est dû au...
Deepfake.
Oh,
deepfake. Alors les Québécois disent hyper-trucage,
ouais.
Ce qui marche bien,
ce qui marche, bien,
ce
ouais.
qui marche mieux.
C'est
même.
Rare que des traductions telles quelles marchent aussi bien. On peut dire merci aux Québécois.
Oui, oui. Alors, de quoi s'agit-il? Bon, on commence à le comprendre là, parce que on commence à en voir un petit peu émerger tous azimuts des deepfakes. Les deepfakes, c'est des contenus, des sons, des images, des vidéos.
Ça a commencé par l'image, quand même.
Ça a commencé par l'image, l'image photoréaliste. Mm-hmm. Les images qui semblaient avoir été prises par un appareil photo lambda et qui, en fait, sont fausses, sont trafiquées. Alors, il y a encore quelques années, on pouvait arriver à des rendus comme cela, mais il fallait être un petit Mozart du Photoshop. Mm. Ça nécessitait un coup de main très particulier et l'usage de logiciels... assez coûteux, hein, quand on marche droit et qu'on va pas les hacker. Aujourd'hui, tout a changé puisque il existe des solutions, des apps, hein, téléchargeables sur son téléphone qui permettent de générer des contenus qui ont l'apparence du photoréalisme.
Vous parlez de la génération de ces images-là. Alors, rentrer dans le détail exact de leur conception, ce serait peut-être un peu fastidieux, mais comment ça se fabrique aujourd'hui une image de deepfake telle que le pape François en doudoune ou Emmanuel Macron en gilet jaune?
Alors, disons que ce qui se passe aujourd'hui, la raison pour laquelle on voit que ça explose, c'est qu'on est à la confluence de différents phénomènes. Le premier, c'est le fait que le deep learning a réellement révolutionné l'intelligence artificielle. Cela, c'est parce que les chercheurs peuvent travailler sur des monceaux de données. La numérisation du monde est en marche grâce à l'usage des capteurs, grâce à l'usage d'Internet qui permet de verser des contenus d'un bout à l'autre de la planète en un claquement de sourcils. Et puis, il y a eu le développement des cartes graphiques, des GPU, c'est-à-dire des microprocesseurs avec des capacités de calcul phénoménales qui ont fait qu'aujourd'hui, cette capacité de calcul associée à l'accessibilité aux données, avec une mayonnaise dans laquelle on met une certaine façon de programmer qu'on peut renfermer sous l'appellation de deep learning, réseau de neurones, en tout cas c'est une façon de faire, on est arrivé à créer des logiciels qui ont la capacité de singer la réalité, de singer le réel.
Et de produire des images de plus en plus convaincantes.
Alors ça a commencé d'une façon assez gaguesque, parce que Antoine, vous citiez l'exemple effectivement du pape François avec sa doudoune. Ce sont des images qui, lorsqu'elles surviennent sur les réseaux sociaux, elles titillent l'œil tout de suite, puisque elles sont tellement incongrues qu'on se dit le verre est dans le fruit, il se passe quelque chose, c'est pas pour de vrai. Le problème aujourd'hui, c'est que ces images deviennent de moins en moins sensationnelles dans leur apparence pour mimer une réalité banale et donc être de plus en plus trompeuse. Dans le domaine audio, par exemple, il faut citer ce qui s'est passé à l'été.
À l'été 2024, juillet 2024, on écoute la voix d'une candidate aux élections américaines, tout simplement.
I, Kamala Harris, and your Democrat candidate for president, because Joe Biden finally exposed his senility at the debate. Thanks, Joe. I was selected because I am the ultimate diversity hire. I'm both a woman and a person of color. So if you criticize anything I say, you're both sexist and racist.
Voilà, Kamala Harris qui nous dit tout simplement que si on critique ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, c'est qu'on est à la fois sexiste et raciste. Bien sûr, elle n'a jamais prononcé ça. C'est un parfait deepfake vocal, mais... on s'y tromperait. Et même Elon Musk, lui, on connaît un peu sa capacité à être le plus grand troll de l'époque, à partager ce contenu sur X, anciennement Twitter, en disant « c'est incroyable ». Mais il n'a pas dit que c'était un deepfake.
Non, alors c'est bien le problème que pose ces deepfakes. Là, ce qu'on vient d'entendre, c'est une sorte de clone numérique de la voix de Kamala Harris. Aujourd'hui, les experts disent qu'il suffit de quelques secondes d'une voix réelle pour... fabriquer ce clone numérique. Donc c'est extrêmement troublant comme idée. Hein,
c'est de ça savoir qu'on se dit qu'on n'est quand même pas sorti de l'auberge, justement, avec ces deepfakes. On parlait des images, à la rigueur, les images, on peut se dire, bon ben, ça se perfectionne, mais on peut encore ne pas être trompé et encouragé à être trompé de façon trop grave par une image, alors que le son, la vidéo peuvent conduire à des réactions collectives parfois un peu surprenantes.
Oui, on voit de plus en plus des occurrences d'arnaque, l'arnaque au président, hein, des histoires de Zoom. Il y a eu un cas à Hong Kong il y a à peu près 6 mois qui s'est soldé par le détournement, je crois, de 25 millions de dollars, où un chef comptable est dans une réunion Zoom. Alors on connaît tous les réunions Zoom avec cette mosaïque d'images qui sont pas très propres. Mmh. Et puis, soudain, il y a le surgissement en haut à gauche du grand patron de l'entreprise qui dit « Je suis en train de régler une affaire à laquelle je tiens énormément. Il faut libérer 25 millions de dollars pour ça dans les 5 heures. Mais c'est compliqué. Je veux pas le savoir. Il me faut l'argent. Il disparaît. » Et l'argent est libéré et il part dans la nature. Mmh. Tout ça parce que l'image était fausse, le son était faux, et ce type de supercherie tend à se multiplier.
Hein. De façon exponentielle.
Il y a un témoignage extrêmement... Alors, c'est pas dans le numéro de Science et Avenir dont il est question aujourd'hui et qui fait sa couverture sur un spécial IA et dans lequel je reviens sur les deepfakes, mais dans le livre que j'ai écrit, je parle notamment du témoignage d'un avocat américain qui raconte qu'un jour, il est au volant de sa voiture, il reçoit un coup de fil, c'est la voix de son fils. « Papa, je viens de provoquer un accident. Une femme enceinte était dans la voiture d'en face. Je suis arrêté par la police. Il faut absolument que tu m'aides. » Ça raccroche. Mmh. L'avocat est rejoint 2 minutes plus tard par le simili-avocat qui lui explique qu'il faut libérer plusieurs milliers de dollars pour la caution de son fils. Évidemment, c'était pas la voix du fils en question. C'était également un deepfake.
Alors du coup, comment dans cette jungle naissante de deepfake, on va faire pour s'y retrouver, pour s'en prémunir, pour les repérer tout simplement? Parce que est-ce qu'il y a des outils aujourd'hui qui sont fiables pour se dire, pour trancher de façon nette, précise et se dire à 100% on a affaire à un deepfake?
Alors le problème, c'est que la technologie est allée beaucoup plus vite d'abord que la législation, c'est-à-dire que
malheureusement ces dernières années, enfin malheureusement, je sais pas, mais en tout cas.
En l'occurrence, je crois qu'on peut le lâcher, malheureusement, oui. Hein, parce que ce qui est en train de se passer, c'est quand même assez effrayant. Et si l'Europe, par exemple, a mis au point un dispositif réglementaire qui s'appelle l'IA Act, qui impose que les contenus modifiés, les images, les sons, les vidéos modifiées par l'intelligence artificielle ne sont pas interdites, en tout cas, chaque fois qu'elles sont diffusées, elles doivent être accompagnées d'une forme de signalétique qui signifie fabriquée par l'intelligence artificielle.
Quand on voit qu'Elon Musk partage le deepfake de Kamala Harris en disant c'est incroyable. Bon, alors lui, il a des intérêts politiques, bien sûr, dans l'histoire, mais bon, c'est quand même le patron d'un des plus gros réseaux sociaux actuels.
Oui, ça montre que ça marche pas. Ça marche pas. Et les seules choses qui marchent, c'est quand X, par exemple, est coupé au Brésil parce que Musk refusait de retirer certains comptes qui faisaient de la fake news. Et parce que X avait été coupé, finalement, il est rentré dans le droit chemin et il a arrêté les comptes en question, ou alors quand Pavel Durov est arrêté lui aussi en France à l'été dernier,
et le patron
que,
de Telegram,
suite à ça, il accepte de modifier les règles d'utilisation de Telegram, qui est un autre réseau social messagerie dans lequel les deepfakes se multiplient à foison. Donc la question législative, elle est importante, mais on voit que ça fonctionne pas. Alors, pas bien. Il y a la question logicielle et effectivement algorithme versus algorithme. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent il faut aller à fond là-dedans parce que finalement c'est un peu ce qui s'est passé avec les virus. Face aux virus informatiques, il y avait des logiciels antivirus. Et chaque fois que le logiciel antivirus devenait obsolète par rapport aux virus qui se développaient, eh bien, il y avait un nouveau logiciel. Et les tenants d'une telle approche pour les deepfakes disent il va falloir fonctionner de la même façon. Mmh. Donc, il y a des gens, là, par exemple, dans le papier de Science et Avenir, j'interroge quelqu'un de l'EPFL en Suisse, un chercheur français qui s'appelle Quentin Bamet, qui travaille sur le développement de solutions logicielles pour développer les deepfakes.
Qui se concentrent là sur les images, si j'ai bien compris et si j'ai bien lu l'article, ce que j'ai fait. et comment, du coup, on va traquer le deepfake dans l'image grâce à ce logiciel, à cet algorithme qui va aller scruter cet algorithme?
Alors, la solution qu'explore Quentin Mamet, elle va vers des questions de perspective. Par exemple, quand on a une scène de la vie naturelle avec des lignes d'horizon, avec des lignes de perspective qui se rejoignent en des points, c'est toujours les mêmes, quoi. Mmh. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de fantaisie, sauf dans une image qui est trafiquée, qui est générée par IA, où là, il peut y avoir des petits décrochages qui ne sont pas sensibles à l'œil nu, mais que le logiciel peut détecter.
Des aberrations, tout simplement. Ouais.
Oui. Alors, dans des scènes très carrées, comme une ligne d'urbanisme, enfin des silhouettes d'immeubles, ça peut fonctionner. Sur les traits d'un visage, des scènes de foule, ça devient déjà plus compliqué. Les chercheurs sont tous d'accord, je crois, pour dire qu'il n'y aura pas un jour une solution miracle avec un logiciel miracle qui permettra de détecter le deepfake. En revanche, on voit aujourd'hui, on peut tester sur Internet des solutions dans lesquelles on verse un contenu, une photo sur laquelle on a une suspicion, et cette photo, elle est simultanément passée au crible de 5, 6, 7 programmes différents qui ont été développés par des laboratoires différents, et chacun vont donner une sorte de pourcentage de chance ou de malchance qu'il s'agisse d'une photo trafiquée.
On va avoir besoin de critères statistiques pour se fier ou non à certaines images.
La question de l'éducation aussi est centrale à ce problème, puisque la confiance qu'on a tous dans les images, qui après tout pouvait avoir valeur de preuve dans des affaires judiciaires, par exemple, la photo de la scène de crime. Bon, aujourd'hui, ce type de réaction est devenu obsolète. Il faut pouvoir sourcer les images. Ça pose la question de la signature numérique, qui sont des solutions qui pourraient être assez abordables. Nos smartphones pourrait, chaque fois qu'il génère une image, une photo, l'accompagner d'un tag qui serait une sorte de gage d'authenticité. Hein. Ce n'est pas une solution qui a été choisie. Il faudrait que les grands acteurs de la technique puissent se mettre d'accord pour nous proposer des solutions pour nous sécuriser.
En ont-ils seulement envie ? Ben ça, c'est une autre question. Affaire à suivre, bien sûr. Et je pense que c'est des affaires à suivre très régulièrement et dans des perspectives temporelles. Très proche de nous, Mathilde Fontaise, pas trop de vertige anthropologique avec cette révolution de notre rapport à l'image.
Bah c'est si c'est vraiment là-dessus que j'avais envie de réagir. On avait posé la question justement à un psychologue cognitif de ce rapport qu'on a aux images et de l'impact des blockchains. Et c'est vraiment ce que vous disiez, Olivier, tout à l'heure. C'est une stimulation directe, une image qui bouge. On n'a pas de distance avec ça. C'est pas du tout la même chose qu'un écrit. Et un texte sur Internet, on va avoir une distance, on va le discuter beaucoup plus qu'une image en vidéo. Et quand on parle d'éducation, ça me semble super difficile de s'obliger à considérer que ces images-là, qu'on est habitué à voir comme des preuves, comme des témoignages bruts de la réalité, puissent être filtrées, enfin doivent être filtrées par nous disant alors attention, est-ce que c'est crédible, est-ce que Donald Trump peut avoir dit ça malgré son
question
côté.
De génération aussi, quand on n'a pas grandi avec des deepfakes, on peut se dire bon ça c'est une image deepfake, ça c'en est pas une. Par contre, une jeune génération qui va avoir grandi entourée d'images complètement fake, est-ce qu'elles seront plus ou moins enclines à faire le distinguo entre les deux, ça c'est pas dit en tout cas. Merci beaucoup à vous deux, Mathilde Fontaise, Olivier Lascar. On peut prolonger cette réflexion en lisant votre article dans le Science et Avenir de janvier, consacré entièrement à l'intelligence artificielle, ou bien en lisant votre livre Deepfake, l'IA au service du faux, paru aux éditions Erol. Et à présent, comme chaque premier lundi du mois, on enfile notre casque en carton et en aluminium bien sûr, et on embarque dans la capsule SF.
La science CQFD, la capsule SF.
Car oui, la science-fiction nous parle en permanence du présent et de ce qui nous arrive. Et pour nous piloter dans cette capsule SF, nous avons le plaisir de vous retrouver, Catherine Dufour. Vous m'avez l'air un petit peu dans la lune aujourd'hui. Est-ce que ce serait l'air de 2025 qui vous fait ça ? La réalité, était en train de...
Mais non, hélas non, parce que 2025, c'est l'année où on ne marchera pas sur la lune. Parce que ça... Ben non, 2025, ça devait être une année lunaire et américaine.
Donc la NASA l'avait promis pour 2025, la mission Artemis devait fouler le régolithe, la fameuse poussière qui recouvre toute la surface de la Lune, ou du moins tourner en orbite lunaire, avec un équipage humain. Alors on a parlé d'exploration durable, de missions régulières, d'une station spatiale en orbite lunaire, et même de l'installation d'un poste permanent sur la Lune, quoi que cela puisse signifier d'installer une permanence sur une surface qui est bombardée en permanence de météorites et de rayons durs. Tout cela dans l'intention avouée de construire un astroport ayant pour destination la planète Mars et dans l'intention moins avouée de miner toutes sortes de choses sur la Lune. Alors là, vous pouvez choisir hein, de l'or, de l'argent, du titane, il y a du chrome, il y a du nickel, il y a des grenades, des péridots et des spinels pour ceux qui aiment.
Se pencher.
Voilà. Tout ça a un délicieux parfum de science-fiction, mais hélas, c'est surtout de science presque fictive, parce que tout ça, c'est Trump qui l'avait promis. En 2019. Ce qui explique peut-être certains retards, et notamment le retard de la fusée de la NASA. C'est un tel retard que ça ressemble à un abandon, mais heureusement, le SpaceX d'Elon Musk, au miracle, aux coïncidences admirables, s'affirme prêt à prendre le relais de la NASA. Pourvu que la mission soit à destination de Mars plutôt que de la Lune, bref, rien n'est sûr, rien n'est clair, rien n'est définitif. N'empêche, 2025, ça ne sera pas l'année lunaire qu'on nous a promis.
Pourtant, on s'entraîne pour y aller, Catherine, sur la Lune.
On s'entraîne, parce qu'il y a une poignée d'hommes et de femmes de l'agence spatiale américaine, la NASA, et canadienne, le CSA, qui passeront 2025 dans les terres les plus pelées d'Islande.
Il y a même, alors je vous interromps, il y a même l'ESA qui vient de lancer un espace d'entraînement qui s'appelle Luna, à Cologne, où les astronautes européens vont s'entraîner aussi à fouler ce sol lunaire. Donc on y croit encore un peu.
On essaye surtout de voir comment ils s'en sortent avec ce confinement d'un nouveau genre. Bref, ils vont y passer l'année 2025 et on leur souhaite bon courage.
Une bonne année à eux.
Donc je voulais revenir en plus en détail sur cette énorme déception. Hein. Un petit rappel, Artemis, c'est un programme de la NASA dont l'objectif est de renvoyer des astronautes sur la Lune pour la première fois depuis 1972. Donc il y a 4 missions. La première, novembre de 2022, la fusée SLS a envoyé la capsule Orion en orbite autour de la Lune pour tester son comportement dans nos conditions réelles. Ça s'est bien passé, mais les analyses de la capsule ont montré que le bouclier thermique d'Orion s'est abîmé lors de son retour sur Terre, ce qui a été considéré comme gênant pour la mission Artemis 2, qui était prévue fin 2024, puisque cette mission devait embarquer sur Orion des astronautes vivants pour un séjour en orbite autour de la Lune. Donc la NASA a analysé le bouclier dans les moindres détails. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas besoin de refaire entièrement ce bouclier thermique, et la mauvaise, c'est qu'il va falloir que la trajectoire de rentrée dans l'atmosphère soit recalculée, en fait.
Corriger quelque peu, oui, pour éviter les dégâts.
Et pour éviter les dégâts, et notamment des centaines de trous pas beaux à voir. Donc ça va demander quelques mois de travail supplémentaire, d'où report de la mission Artemis 2, et donc report d'Artemis 3, qui est la mission où l'être humain doit reposer le pied sur la Lune. Donc Artemis 2, vous notez, hein, c'est mi-2026, et Artemis 3, c'est mi-2027. Si, et seulement si, le Starship de SpaceX est prêt, parce que le Starship il doit servir d'alunisseur, et il n'est pas encore au point. Il faudra finaliser des combinaisons spatiales de nouvelle génération qui sont mises au point par la société américaine Axiom en partenariat avec Prada.
C'est si chic.
C'est tellement chic. Et Artemis 3 demande aussi des ravitaillements en orbite terrestre par des vaisseaux Starship qui ne sont pas prêts non plus.
Mais ils sont à l'essai là, parce que là je crois que d'ici la fin de la semaine, cette semaine même, il y a un nouvel essai de Starship de SpaceX qui va être envoyé. Puis il y a aussi le New Glenn de Blue Origin, alors c'est Jeff Bezos. Le lanceur lourd du patron d'Amazon qui va être lui aussi testé, donc c'est la course à la foire à la saucisse quoi en fait.
Et ben voilà, et ben le bon terme là-dedans c'est test, c'est-à-dire ils sont en phase de test, donc ils ne sont pas prêts. Donc on est bien embêté. Et il y a un autre gros problème, c'est le SLS, c'est la fusée géante de la NASA qui a des soucis de développement, et moi je dis que peut-être aussi c'est parce qu'elle est développée par Boeing, je veux pas être désagréable. Des spéculations suggèrent que l'administration Trump pourrait annuler le SLS et obliger la NASA à sous-traiter à une plus grande partie de son travail à des entreprises privées. On se demande vraiment laquelle.
Et là, on voit vraiment tout un projet peut-être politico-économique qui se dessine.
C'est sévèrement politique.
Qui vise juste à casser la NASA. Quoi.
Exactement. Et pendant ce temps-là, il y a la Chine avec ses missions Chang'e qui envisage de se poser sur la Lune en 2030, au pôle Sud, hein, comme le visent aussi les Américains, parce qu'en fait, le pôle Sud, il y a de la glace d'eau. Et la glace, c'est un peu la base quand on veut s'implanter quelque part. Et on n'est quand même pas sûr que la Chine, si elle tient son objectif de 2030, soit si en retard que ça sur les Américains, sans compter l'Inde qui guette dans l'ombre.
Donc, au-delà de l'enthousiasme que suscite, en tout cas chez moi, la conquête spatiale, qu'est-ce que la science-fiction peut dire de ces missions Artemis et plus largement des programmes spatiaux ? Alors que le premier risque, c'est que l'humanité imagine qu'il existe vraiment une planète B. Et ça, c'est un peu le sujet de mon livre, Les champs de la Lune. La Lune, c'est comme Mars, c'est une planète très belle, il y a très beaux paysages, il y a beaucoup de ressources, on y trouve de l'eau et de l'oxygène en abondance. Bref, sur le papier, c'est complètement viable. Mais en réalité, c'est une planète morte, c'est-à-dire qu'il sera à peu près aussi agréable de vivre là-bas que d'habiter dans un parking. Donc, si l'humanité réussit à survivre là-haut, ça sera en mutant, mais au moins psychologiquement. Et ça, c'est vraiment le sujet d'un livre, La voix martienne d'Asimov, où on voit bien les deux branches humaines, terrestres et extraterrestres, diverger dans leur mentalité et leur habitus. Et il y a aussi Philip K. Dick qui a tenté d'approcher ce glissement de l'homo sapiens sapiens vers l'homo sapiens spatium dans Glissement de temps sur Mars. Le deuxième risque, c'est que le privé en vienne à dominer le public dans la conquête spatiale, et que donc celle-ci ne soit plus que commerciale et consommatrice, avec simplement du minage de ressources et du tourisme de luxe, loin de tous ces rêves de découverte, vous savez, dans Star Trek.
Et on partagera, Catherine, puisque le temps nous échappe complètement, on partagera toutes ces références sur le site. Merci beaucoup Catherine Dufour, merci Mathilde Fontaise, merci Pierre Kerner et Olivier Lascar. On écoute comme chaque jour la chronique Avec Science d'Alexandre Morales.
Comment les yeux traitent-ils l'information visuelle ? Vous connaissez sûrement les bâtonnets et les cônes, ces photorécepteurs qui tapissent la rétine et qui s'activent lorsque leur parvient la lumière pour convertir ce signal lumineux en signal électrique. Mais ce qu'on sait moins, c'est que la rétine contient d'autres couches de neurones qui vont se passer le signal et véritablement l'analyser. Ce signal finit par atteindre les cellules ganglionnaires situées à l'arrière de la rétine qui vont ensuite l'envoyer au cerveau par le nerf optique. Si pour nous ça peut sembler surprenant, les scientifiques, eux, le savent depuis quelques dizaines d'années déjà, le signal qui sort de l'œil est pré-analysé. Il faut donc comprendre comment l'information est traitée au sein même de l'œil. Et le premier exemple connu est celui de certaines cellules ganglionnaires très spécifiques qui ne s'activent et ne transmettent le signal électrique que lorsqu'un objet se déplace dans une direction précise. On a donc dans l'œil un véritable détecteur de mouvement et de direction de ce mouvement. Alors petit à petit, les chercheurs ont découvert parmi les cellules ganglionnaires différents types cellulaires, chacun chargé de repérer une caractéristique bien spécifique de la scène visuelle pour l'envoyer au cerveau. Olivier Marre est directeur de recherche INSERM à l'Institut de la Vision à Paris. Il a participé à cette étude parue dans la revue PNAS.
Aujourd'hui, on comprend ce que font un peu à peu près certains types de cellules. Mais en fait, il y en a plein où on ne comprend pas exactement encore qu'est-ce qu'elles extraient, quel est l'aspect qui les intéresse, entre guillemets, dans la scène visuelle. Et donc, on a encore pas mal de choses à découvrir à ce niveau-là. Donc, vous voyez qu'on a déjà presque un micro-ordinateur qui est déjà présent dans ces quelques millimètres carrés de tissu biologique et qui va précalculer toutes les informations dont le cerveau aura besoin ensuite. Donc, notre étude, dans ce contexte-là, elle s'intéresse un petit peu à une étape supplémentaire, c'est que les gens ont surtout regardé les neurones individuellement, qu'est-ce que individuellement chacun de ces neurones, chacune de ces cellules était capable d'extraire. Mais évidemment, le tout est souvent plus que la somme des parties, en tout cas, il est souvent différent de la somme des parties. Et ce qui nous a intéressé, ça a été de se dire, mais au final, qu'est-ce qui se passe quand on regarde ensemble ces différents neurones ?
Et pour tirer cela au clair, ils ont mis au point une méthode qui permet d'enregistrer l'activité électrique d'un grand nombre de cellules ganglionnaires en même temps. Alors, travaillent-elles indépendamment ou sont-elles capables de se synchroniser face à une scène visuelle ? C'est tout l'objet de cette publication. Alors, Olivier Marre et son équipe ont placé sur les rétines de larves de salamandre des tableaux d'électrodes capables de détecter l'activité des cellules une par une. Et ils ont effectué ces mesures lorsqu'ils montraient des films aux larves, 5 vidéos très différentes les unes des autres, représentant des scènes que peut observer une salamandre dans son milieu naturel, avec un arbre au vent, un cours d'eau ou encore un poisson en mouvement. En toute logique, ces scènes variées devraient activer des cellules très différentes. Et c'est ce qui s'est passé, les scientifiques ont pu observer l'activation de différentes populations de cellules. Mais là où ça devient intéressant, c'est que certains de ces neurones s'activaient systématiquement ensemble, peu importe le type de scène qui leur était présentée.
En fait, c'est des neurones qui calculent quelque chose sur la scène visuelle, mais qui le calculent ensemble. Et si on les regardait un à un, en fait, on raterait le fait qu'il y a aussi une information qui passe par le fait qu'ils peuvent répondre de manière synchronisée. Vous imaginez juste, vos neurones comme des pixels et tout d'un coup, hop, il y a des pixels qui s'allument ensemble et ça vous dit quelque chose de particulier sur ce qui se passe dans la scène visuelle. Et en fait, c'est toujours ces mêmes neurones qui, visiblement, ont un espèce de mode de transmission où c'est pas juste chaque neurone envoie sa petite information, mais en fait, ensemble, ils se synchronisent et ils envoient une information spécifique. En fait, ce qui a été frappant, c'est que des neurones soient activés ensemble, ça arrivera toujours un petit peu par la force des choses. Si vous montrez un objet particulièrement grand qui va activer plusieurs neurones en même temps qui sont en train de regarder différents endroits. Bon, bah voilà, ok, ils vont répondre ensemble, mais en soi, ça, c'est pas extrêmement surprenant. Ce qui est assez surprenant, c'est que, quel que soit le stimulus visuel, en fait, c'est toujours les mêmes neurones qui finissent par se synchroniser. Donc, ça veut dire que, il y a quelque chose un petit peu d'indépendant du stimulus précis qu'on est en train de montrer qui s'active. Alors après, voilà, qu'est-ce qui l'active dans la scène visuelle? Pourquoi à certains moments particuliers il se synchronise? Ça, on ne sait pas encore. Qu'est-ce qui fait ça? Et quelle est l'information transmise par ce canal un peu spécifique?
Il reste donc à comprendre le type d'information que ce groupe de neurones qui s'active en même temps envoie au cerveau. Ce transfert se fait grâce à une branche de ces cellules ganglionnaires qu'on appelle un axone et qui rejoint le cerveau. Mais où cet axone arrive-t-il précisément dans le cerveau et comment traite-t-il ce signal préanalysé? Voilà quelques problématiques qu'il reste encore à élucider.
Merci beaucoup Alexandre Morales, un grand merci à toute l'équipe de La Science CQFD. À la technique aujourd'hui, c'était Olivier Arnay. On se retrouve bientôt dans La Science CQFD. En attendant, gardez le bon cap, il y a toujours une terre de science en vue.